Chapitre 13. Le lavage des pieds. Verset 1. Citation de l'Écriture. Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Fin de citation. Ce premier verset introduit les derniers entretiens du Seigneur avec ses disciples. Il indique l'occasion qui a donné lieu à ces paroles d'adieu, le besoin chez les siens qui les a rendues nécessaires et le motif qui a amené le Seigneur à les prononcer. L'occasion est indiquée par la mention qu'enfin son heure était venue pour passer de ce monde au Père. Au cours de la vie du Seigneur sur cette terre, nous avons rencontré d'autres heures. À Cana de Galilée, il pouvait dire à sa mère « Mon heure n'est pas encore venue ». L'heure de sa manifestation en gloire au monde. Au chapitre 5, nous lisons « L'heure vient, et elle est maintenant, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » L'heure de sa grâce envers les pécheurs. En présence de l'inimitié de l'homme à deux reprises, il est dit que personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. L'heure de ses souffrances. L'heure dont il est question dans notre chapitre, celle qui introduit les paroles d'adieu, a un autre caractère. Il ne s'agit pas de l'heure de sa grâce envers les pécheurs, ni de l'heure de ses souffrances pour eux. Ce n'est pas non plus l'heure de sa manifestation en gloire au monde. Nous avons ici plutôt l'heure de son retour dans sa gloire auprès du Père, dans l'amour et la sainteté de la maison du Père. Mais les disciples allaient être laissés dans un monde de corruption qui haïssait le Père et rejetait Christ. Afin d'être gardés du mal régnant dans le monde qu'ils traversent et de jouir pourtant de la communion avec Christ dans la demeure d'amour et de sainteté du Père, ils vont avoir besoin de ce dernier ministère de grâce avec ses consolations, ses instructions et ses avertissements. Nous apprenons en outre le motif qui a conduit le Seigneur à ce dernier acte de grâce, à prononcer ses paroles d'adieu et à faire monter la prière qui les termine. Si l'occasion a été fournie par son départ auprès du Père, le motif se trouvait dans son amour pour les siens. Le Seigneur va quitter ce monde, mais il y laisse ceux qu'il se plaît à appeler les siens. Il constitue un groupe de croyants sur la terre appartenant à Christ dans le ciel. Ils sont les siens, comme fruit de sa propre œuvre, les siens comme ceux que le Père lui a donnés. Ils n'ont peut-être pas beaucoup de valeur aux yeux du monde, mais ils sont très précieux aux yeux du Seigneur. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Il allait bientôt les quitter, mais il ne cessait pas de les aimer. Souvent, l'amour humain s'altère. Nous nous séparons, nous oublions et cessons de nous intéresser les uns aux autres. Le prophète déclare que même une femme peut oublier son nourrisson. Mais l'Éternel dit « Moi, je ne t'oublierai pas. » Ésaïe 49, verset 15. Si le Seigneur s'en va de ce monde, il n'oubliera pas les siens, ni ne cessera de les aimer. Hélas, nos cœurs peuvent se refroidir à son égard, nos mains peuvent se lasser de faire le bien, nos pieds s'égarer. Mais nous possédons une assurance. Jamais lui ne nous fera défaut. Son amour nous portera et prendra soin de nous jusqu'à la fin. Et alors, nous serons reçus par son amour dans la demeure éternelle de l'amour, où il n'y a ni cœur froid, ni main qui se lasse, ni pied qui s'égare. Ainsi, alors que nous approchons des scènes finales du séjour du Seigneur avec ses disciples, pour considérer le dernier acte, écouter les dernières paroles et entendre la dernière prière, la parole nous rappelle l'occasion qui a provoqué cet ultime ministère, le besoin qui le rendait nécessaire et l'amour qui y a répondu. Avant d'entrer dans les détails de ces derniers discours, il est peut-être utile de suggérer quelques pensées quant au caractère général des vérités présentées et à l'ordre dans lequel elles sont développées. On remarquera qu'au chapitre 13, les disciples sont placés dans les relations qui conviennent les uns à l'égard des autres. Ils ont à se laver les pieds les uns aux autres et à s'aimer les uns les autres. Au chapitre 14, nous les voyons établis dans les relations justes avec les personnes divines, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Au chapitre 15, ils sont mis dans des relations appropriées avec le cercle chrétien, en vue de porter du fruit pour le Père et de rendre témoignage à Christ dans un monde d'où il est absent. Au chapitre 16, ils sont instruits quant aux choses à venir, en vue de leur pèlerinage au travers d'un monde hostile, par lequel ils sont haïs, incompris et persécutés. On verra ainsi qu'au chapitre 13, les pieds des disciples sont lavés, au chapitre 14, leur cœur est consolé, au chapitre 15, leurs lèvres sont ouvertes pour témoigner, et au chapitre 16, leur esprit est instruit afin qu'ils ne soient pas découragés par les persécutions qu'ils peuvent être appelés à rencontrer. On remarquera en outre qu'il y a une progression dans l'instruction. La vérité énoncée dans un chapitre prépare à la révélation nouvelle du chapitre suivant. Le service du chapitre 13 prépare les disciples à la communion avec les personnes divines, telle qu'elle est développée au chapitre 14. La communion avec les personnes divines, dans leur sphère propre, à l'intérieur, les prépare à porter du fruit et à rendre témoignage dans le monde, la scène extérieure présentée dans le chapitre 15. Puis, le fruit et le témoignage du chapitre 15 conduisent à la persécution à laquelle le Seigneur prépare les siens par la vérité du chapitre 16. Le développement de ces grandes vérités ne suffit néanmoins pas pour les maintenir dans ce monde comme les représentants de Christ. La prière est nécessaire. Ainsi, les entretiens avec les disciples se terminent par la prière au Père, rapportée au chapitre 17. Versets 2 à 17. Le lavage des pieds. Citation de l'Écriture. Et pendant qu'ils étaient à souper, le diable, ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le livrer, Jésus, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu, se lève du souper et met de côté ses vêtements, et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Puis il verse de l'eau dans le bassin et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon-Pierre et celui-ci lui dit « Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds ?» Jésus répondit et lui dit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant. » Mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit, « Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net. Et vous, vous êtes net. » Mais non pas tous, car il savait qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous nets. » Quand donc il eut lavé leurs pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit, « Savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que, comme je vous ai fait, moi, vous aussi vous fassiez. En vérité, je vous dis, l'esclave n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. » Fin de citation. Le Seigneur ne pourrait plus être le compagnon de ses disciples au cours de leur pèlerinage sur la terre, mais il ne cessera pas d'être leur serviteur dans sa nouvelle position au ciel. Aussi trouvons-nous, dans cette scène, un acte de grâce qui, tout en mettant fin au service d'amour du Seigneur envers les siens sur la terre, préfigure celui qu'il accomplira pour eux lorsqu'il aura pris sa nouvelle place dans la gloire. S'il ne peut plus avoir part avec nous personnellement dans le sentier de l'abaissement, il fera en sorte que nous puissions avoir part avec lui dans sa position de gloire. Voilà, pensons-nous, la portée de cet acte plein de grâce du lavage des pieds. Tout au long de sa vie parfaite, la pensée qui était dans le Christ Jésus a toujours été l'oubli de soi-même dans le service d'amour pour les autres. Et dans ce dernier acte, bien qu'ayant devant lui l'ombre sinistre de la croix, le Seigneur s'oublie encore lui-même afin de servir les siens. Les versets 2 et 3 introduisent cet humble service en montrant, d'une part, sa profonde nécessité et, d'autre part, combien le Seigneur était parfaitement qualifié pour l'accomplir. La nécessité du lavage des pieds est rendue évidente par le fait que les disciples vont être laissés dans un monde où le diable et la chair sont unis dans une hostilité acharnée contre Christ. La mention de la trahison de Judas au début de cette scène, comme celle du reniement de Pierre un peu plus loin, montre clairement que la chair, dans un pécheur aussi bien que dans un saint, n'est qu'un instrument à la disposition du diable. Les convoitises non jugées de la chair avaient ouvert le cœur de Judas aux suggestions du diable. Trahir son ami, et cela par le témoignage de l'amour, est quelque chose de repoussant, même pour l'homme naturel. Mais le désir indomptable de satisfaire la convoitise prépare le cœur à recevoir une suggestion qui est contraire à la nature et ne pouvait venir que du diable. En face de cet effroyable déploiement de la puissance de la chair et du diable, la perspective d'être laissé dans un monde mauvais, avec la chair à l'intérieur et le diable à l'extérieur, avait bien de quoi épouvanter le cœur des disciples. Mais immédiatement, le Seigneur relève nos cœurs en les détournant de la chair et du diable et en les dirigeant vers lui et vers le Père, pour apprendre que le Père avait mis toutes choses entre les mains de Christ. Un grand pouvoir est entre les mains du diable qui nous hait, mais toute autorité est dans les mains de Christ qui nous aime. Et non seulement toute autorité avait été donnée à Christ, mais il allait au siège de l'autorité, il était venu de Dieu, et il s'en allait à Dieu. Tout en ressentant avec une sensibilité parfaite la trahison d'un faux disciple et le reniement prochain d'un vrai disciple, le Seigneur poursuivait néanmoins son chemin dans la calme conscience que toute autorité était entre ses mains et qu'il allait au siège de l'autorité. De même, il voudrait que nous traversions ce monde mauvais, sachant qu'il a toute autorité et qu'il se trouve dans le lieu où elle s'exerce. En outre, non seulement le Seigneur est au siège même de la puissance et détient toute autorité, mais, dans la scène qui suit, il nous révélera qu'il se plaît à l'exercer en notre faveur. Celui qui a toute autorité entre ses mains a aussi tout l'amour dans son cœur. C'est ainsi que, mu par l'amour de son cœur, celui qui détient toute l'autorité entre ses mains va prendre entre ses mêmes mains les pieds souillés de ses disciples fatigués du chemin. Le Seigneur de tous devient le serviteur de tous. Pour accomplir ce service de grâce, il se lève du souper. Il se lève du souper de la Pâque, qui parle de son association avec nous dans les gloires du royaume, Luc 22, versets 15 et 16, afin de faire ce qui conduit à notre communion avec lui dans les gloires célestes. Dans la perfection de sa grâce, il se ceint d'un linge pour cet ultime acte de service et, versant de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon-Pierre. Si, muet de surprise, les autres disciples acceptent le service du Seigneur, Pierre, avec son caractère impulsif, donne libre cours à ses pensées. Il parle à trois reprises, révélant chaque fois son ignorance de la pensée du Maître. La première fois, il désapprouve l'humble service du Seigneur. La deuxième fois, il le refuse catégoriquement. La dernière fois, il s'y soumet impulsivement, mais d'une façon qui aurait dépouillé un tel acte de toute sa signification profonde. Néanmoins, comme quelqu'un l'a dit, si nous sommes avertis par les erreurs des disciples, combien plus ne sommes-nous pas instruits par les réponses qui les corrigent. Nous trouvons le sens spirituel profond de cet ultime service dans la réponse du Seigneur. Pierre ne pouvait comprendre que le Seigneur de gloire s'abaisse à laver ses pieds souillés par la marche. Aussi ses premières paroles expriment-elles une protestation mêlée de surprise. « Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds ?» Le Seigneur répond « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. » Nous apprenons ainsi qu'à ce moment, les disciples ne pouvaient pas discerner la signification spirituelle de l'acte du Seigneur. Plus tard, lorsque le Saint-Esprit serait venu, tout serait rendu clair. Il est donc évident que ce service ne visait pas, comme on le dit souvent, à donner une leçon d'humilité par un acte d'humilité suprême de la part du Seigneur. Pierre n'aurait pas eu besoin d'attendre un jour futur pour discerner l'humilité de l'acte. Ces paroles mêmes montrent que l'humilité du Seigneur occupait toutes ses pensées à ce moment-là. Sans être arrêté par la réponse du Seigneur qui aurait dû l'amener à garder le silence jusque dans la suite, où tout serait éclairci, Pierre dit maintenant avec détermination « Tu ne me laveras jamais les pieds ». Dans sa grâce patiente, passant par-dessus ce manque d'égard, le Seigneur corrige l'impulsivité de Pierre en déclarant « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi ». Toute brève que soit cette réponse, nous pouvons voir, maintenant que nous avons reçu l'Esprit, qu'elle donne la signification spirituelle du lavage des pieds. Celui-ci symbolise le service actuel du Seigneur, par lequel il débarrasse notre esprit de tout ce qui nous empêcherait d'avoir part avec lui. Remarquons que le Seigneur ne dit pas « Tu n'as pas de part en moi ». Le service du lavage des pieds est certes précieux, mais jamais il n'assurerait de part en Christ. Il a fallu pour cela l'œuvre plus grande de la croix qui, une fois accomplie, ne peut jamais être répétée. Par cette œuvre plus grande, la part en Christ a été à jamais assurée à tout croyant. Le lavage des pieds est la présentation symbolique sur la terre d'un service continué dans le ciel, un service qui rend les croyants sur la terre capables d'avoir communion avec Christ dans le ciel. En effet, les paroles du Seigneur « par avec moi » ne signifient-elles pas communion avec lui dans la maison du Père, ce lieu de sainte affection ? Que le Seigneur s'approche de nous et s'entretienne avec nous dans nos demeures, comme il le fit quand il entra dans la maison à Emmaüs, est certes un fait béni. Mais une part avec lui renferme la pensée plus précieuse encore que nous pouvons avoir communion avec lui dans sa maison. Ce fut le cas pour les disciples d'Emmaüs quand, le même soir, ils trouvèrent le Seigneur au milieu de ses saints réunis à Jérusalem. Les paroles du Seigneur à Laodicée ne présentent-elles pas aussi cette double vérité lorsqu'il peut dire « Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi ». Il semblerait, en outre, que le lavage des pieds n'est pas strictement une image du service de notre Seigneur comme avocat, ni de sa grâce sacerdotale, bien qu'il touche à la nature des deux. L'œuvre sacerdotale du Seigneur a en vue nos infirmités. Le service d'avocat du Seigneur s'occupe des péchés effectifs dans le chemin. Le lavage des pieds ranime l'âme assoupie et réchauffe les affections que les occupations quotidiennes tendent à refroidir, entravant ainsi la communion avec Christ là où il est. La fatigue et la faiblesse physique peuvent nous empêcher d'être des témoins pour Christ ici-bas. Sa grâce sacerdotale s'emploie alors à nous soutenir dans nos infirmités. Hélas, nous pouvons aussi avoir des défaillances et péchés, de manière à ne plus être en état de témoigner pour Christ. L'avocat restaure alors l'âme. Mais, sans qu'il n'y ait peut-être rien qui trouble la conscience, si les affections se sont refroidies, la communion avec Christ ne peut plus être réalisée. Et alors le service du lavage des pieds intervient pour enlever l'obstacle. Nous pouvons voir encore une autre différence entre l'office d'avocat et le lavage des pieds. Tandis que le premier restaure notre âme là où nous sommes, le second restaure notre esprit dans la communion avec Christ là où il est, lui. Au jour de la marche d'Israël dans le désert, les sacrificateurs devaient se laver les pieds avant d'entrer dans le tabernacle. Ils auraient certes pu convenir pour le peuple, pour le camp et pour le désert, mais la présence de l'Éternel exigeait un état qui ne pouvait être assuré que par le lavage des pieds. Aussi, la cuve se trouvait-elle à l'entrée de la tente d'assignation. Exode 30, versets 17 à 21 et 40, versets 30 à 32. Quelle est donc la nature du service symbolisé par le lavage des pieds? La réponse à la première remarque de Pierre a montré qu'il a une signification spirituelle. La réponse à sa deuxième déclaration nous révèle le but qu'il a en vue. Enfin, la réponse à sa dernière remarque indiquera plus clairement la nature du service ou la façon de l'accomplir. Ayant quelque peu saisi la valeur bénie du lavage des pieds, Pierre revient maintenant sur sa déclaration péremptoire que le Seigneur ne lui laverait jamais les pieds. Poussé par son affection réelle pour le Seigneur et avec son impulsivité coutumière, il dit « Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête ». Même si sa remarque trahit de l'ignorance, elle exprime certainement une affection qui apprécie cette part avec Christ. Le Seigneur répond « Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net ». Dans l'Écriture, l'eau typifie souvent l'effet purificateur de la parole de Dieu. À la conversion, la parole est appliquée par la puissance de l'Esprit, produisant un changement complet et communiquant une nature nouvelle qui transforme entièrement les pensées, les paroles et les actions du croyant. Cette transformation est exprimée par ces mots du Seigneur, tout le corps lavé. Ce grand changement ne peut pas être répété. Pourtant, il arrive souvent à ceux qui ont ainsi tout le corps lavé de se lasser dans leur esprit. De même que les pieds du voyageur sont souillés et fatigués par la poussière du chemin, le croyant en contact avec la routine journalière, les devoirs de famille et les charges de la vie professionnelle, en plus du conflit constant avec le mal, éprouve souvent dans son esprit de la fatigue qui entrave sa communion avec Christ et les choses qui le concernent. Non qu'il ait fait quelque chose que la conscience ait à reprendre et qui réclamerait la confession et le service de l'avocat, mais son esprit est accablé et a besoin d'être récréé. Christ se plaît à donner un tel rafraîchissement pour autant que nous voulions bien confier nos pieds à ses mains. Si nous nous tournons vers lui, il rafraîchira notre âme en se présentant lui-même devant nous, dans toutes ses perfections, par sa parole. Ainsi, par les réponses pleines de grâce du Seigneur à Pierre, nous découvrons le caractère spirituel d'un tel service, le but qu'il a en vue et comment il s'accomplit. Hélas, pour l'un des disciples, il n'aurait aucune signification. En effet, le Seigneur doit dire « Vous, vous êtes nets, mais non pas tous. » Car il savait qu'il le livrerait, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous nets. » Le traître n'avait jamais eu tout le corps lavé. Il n'était pas né de nouveau, et de ce fait, il n'éprouverait jamais le besoin du service plein de grâce du Seigneur, ni ne connaîtrait le rafraîchissement qu'il apporte. Après avoir accompli ce service et repris sa place à la table, le Seigneur continue à nous enseigner quant au service du lavage des pieds. Bien que ce soit essentiellement son propre service, il l'accomplit néanmoins souvent par l'intermédiaire des siens. Nous sommes ainsi placés sous l'obligation, et nous recevons le privilège, de nous laver les pieds les uns aux autres. Service béni, accompli non pas en cherchant à nous corriger l'un l'autre, si nécessaire cela soit-il parfois, encore moins en nous critiquant mutuellement, mais en nous présentant Christ, chacun l'un à l'autre, car seule la présentation de Christ apportera du rafraîchissement à une âme lassée. Des années après cette scène dans la chambre haute, l'apôtre Paul nous dira qu'un des caractères qui recommande la veuve pieuse est qu'elle a lavé les pieds des saints. 1 Timothée 5, verset 10. Cela n'implique certes pas qu'elle s'occupait seulement de reprendre le mal ou de corriger les fautes, mais plutôt qu'elle rafraîchissait l'esprit abattu des saints en venant de la part de Christ et pour présenter Christ. Onésiphore n'a-t-il pas lavé les pieds de l'apôtre Paul? L'apôtre écrit à son sujet « Il m'a souvent consolé », note du traducteur, dans le sens de rafraîchir, faire du bien. « Et n'a point eu honte de ma chaîne », 2 Timothée 1, verset 16. Et Philémon ne s'est-il pas acquitté de cette obligation envers ses frères? Paul peut lui dire « Les entrailles des saints ont été rafraîchies par toi, frère. » Philémon, verset 7. Le Seigneur lui-même n'a-t-il pas accompli directement ce service béni lorsqu'il dit de nuit à son serviteur Paul, lassé, « Ne crains point, parce que je suis avec toi. » Acte 18, versets 9 et 10. Enfin, le lavage des pieds ne se limite pas à rafraîchir l'âme lassée. il réjouit aussi le cœur de celui qui accomplit un tel service. En effet, le Seigneur peut dire « Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. » Versets 18 à 30. Le départ du traître. Citation de l'Écriture. Je ne parle pas de vous tous. Moi, je connais ce que j'ai choisi. Mais c'est afin que l'Écriture soit accomplie, celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyiez que c'est moi. En vérité, je vous dis, celui qui reçoit quelqu'un que j'envoie, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Ayant dit ces choses, Jésus fut troublé dans son esprit, et rendit témoignage et dit, « en vérité, je vous dis que l'un d'entre vous me livrera. » Les disciples se regardaient donc les uns les autres, étant en perplexité, ne sachant de qui ils parlaient. Or, l'un d'entre ses disciples, que Jésus aimait, était à table dans le sein de Jésus. Simon-Pierre donc lui fait signe de demander lequel était celui dont il parlait. Et lui, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, lequel est-ce » Jésus répond « C'est celui à qui moi je donnerai le morceau après l'avoir trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donne à Judas Iscariote, fils de Simon. Et après le morceau, alors Satan entra en lui. Jésus donc lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela, car quelques-uns pensaient que, puisque Judas avait la bourse, Jésus lui avait dit « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il donna quelque chose aux pauvres. Ayant donc reçu le morceau, il sortit aussitôt. Or, il était nuit. Fin de citation. La réception de communications spirituelles requiert toujours une certaine condition spirituelle. Ainsi, le lavage des pieds était une préparation nécessaire pour ceux qui allaient entendre les dernières paroles du Seigneur, si riches en vérité divine et en consolation spirituelle. Il se trouvait cependant un homme parmi eux qui n'avait jamais eu tout le corps lavé, sur qui le lavage des pieds n'aurait aucun effet et pour qui les enseignements de Jésus ne signifieraient rien. La présence de Judas, complotant dans son cœur la trahison qu'il allait consommer, jette une ombre sinistre sur le petit groupe des disciples. Avant que le Seigneur puisse leur communiquer ses dernières instructions, ou que les disciples puissent les recevoir, Judas devait quitter la chambre haute et sortir dans la nuit. La manière dont il est écarté montre la tendre sollicitude du Seigneur pour les siens. La trahison de Judas, connue depuis longtemps par le Seigneur, est découverte avec beaucoup de douceur à ses disciples. Au cours du lavage des pieds, le Seigneur avait fait allusion à Judas, sans que les onze le remarquent, semble-t-il. Maintenant, il s'exprime plus clairement, disant « Je ne parle pas de vous tous. Moi, je connais ce que j'ai choisi. » Il y avait là le cercle intime des compagnons choisis du Seigneur, auxquels il allait révéler les secrets de son cœur. Mais parmi eux se trouvait un homme qui n'y avait pas sa place. Quelqu'un au sujet duquel l'Écriture avait dit « Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. » Cette révélation était bien propre à donner un choc aux disciples et à éprouver leur foi. L'incrédulité raisonneuse aurait pu arguer « Nous, nous ignorions la présence du traître, mais si Jésus ne la connaissait pas, est-il vraiment le Seigneur de gloire ?» Le Seigneur ne s'arrête pas à d'éventuels raisonnements de cette sorte. Il soutient leur foi en leur révélant à l'avance la trahison toute proche. Il dit « Je vous le dis dès maintenant avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyiez que c'est moi. » Par la trahison de Judas, ils auront une preuve nouvelle qu'il est véritablement le grand « Je suis », auquel rien n'est caché et pour qui le futur est présent. D'une part, il ne sera pas permis que la présence et l'acte du traître ternissent la gloire du Seigneur. D'autre part, la chute totale de l'un des douze n'invalidera pas le mandat des onze qui reste. Ce mandat serait maintenu dans toute sa force. Aussi le Seigneur peut-il dire « Celui qui reçoit quelqu'un que j'envoie, me reçoit. » et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Face à l'horrible péché de Judas, la gloire du Seigneur demeure intacte et le mandat des onze n'est pas altéré. Il faut néanmoins davantage pour faire comprendre aux disciples la terrible réalité de cette révélation et pour ôter Judas du milieu d'eux. Le Seigneur leur dira clairement la nature du péché et finalement leur découvrira l'homme qui va l'accomplir. Ces révélations supplémentaires troublent profondément son esprit. Jésus fut troublé dans son esprit et rendit témoignage et dit « en vérité, je vous dis que l'un d'entre vous me livrera. » Dans un langage qui ne pouvait prêter à confusion, les disciples apprennent ainsi que l'un d'entre eux va trahir le Seigneur. Ils sont placés devant le fait terrible que l'occasion recherchée par un monde hostile et que les adversaires de Jésus n'arrivaient pas à trouver, par crainte du peuple, surgirait du milieu d'eux. Elle se manifesterait dans la personne d'un homme qui ne craignait ni Dieu ni le peuple. Un homme qui avait passé pour un disciple du Seigneur, qui avait été son compagnon de tous les jours, qui avait vu toutes ses œuvres de puissance et écouté, sans qu'elle le touche, ses paroles de grâce et d'amour. Une telle révélation troubla le Seigneur dans son esprit et suscita les questions anxieuses des disciples qui se regardaient les uns les autres, étant en perplexité, ne sachant de qui il parlait. Se regarder les uns les autres ne va pas résoudre cette question solennelle. Le traître est là. Il se sait découvert par le Seigneur, mais il ne manifeste aucun signe qui le démasquerait devant les autres. C'est vers le Seigneur qu'ils doivent se tourner pour être délivrés de cette terrible incertitude. Le disciple qui interroge le Seigneur doit être près de lui. Celui qui se tient le plus près peut se désigner comme étant l'un d'entre ses disciples que Jésus aimait. Conscient de l'amour du Seigneur pour lui et se confiant dans cet amour, Jean était à table dans le sein de Jésus. Le disciple dont un instant auparavant les pieds avaient été dans les mains de Jésus repose maintenant sa tête dans le sein de Jésus. Ne pouvons-nous pas dire que cette position de communion intime est le résultat même du lavage des pieds? La tête appuyée sur ce cœur d'amour fait suite au lavage des pieds opéré par ses mains d'amour. Simon-Pierre, le disciple au cœur brûlant, qui, si souvent et de tant de manières, semble dire « Je suis le disciple qui aime le Seigneur », n'était pas assez près pour questionner le Seigneur. Il fait signe à Jean de demander lequel était celui dont il parlait. Très simplement, Jean dit « Seigneur, lequel est-ce ? » Le Seigneur répond aussitôt « C'est celui à qui, moi, je donnerai le morceau après l'avoir trempé. » Il n'est pas dit « un morceau », comme s'il s'agissait d'un simple acte accidentel, mais « le morceau », en rapport avec une coutume bien établie consistant à offrir à un autre qu'on voulait honorer le morceau de choix du plat. Donnant suite à ces paroles, le Seigneur tend le morceau à Judas Iscariote, ce qui non seulement prédit la trahison, mais démasque le traître. Déjà, la convoitise avait ouvert le cœur de Judas à la suggestion du diable. Maintenant, Satan lui-même prend possession de cet homme. Si Judas avait conservé la moindre parcelle de conscience, le moindre sentiment de honte, le moindre recul devant le péché qu'il allait commettre, tout est étouffé par l'entrée de Satan. L'hésitation n'existe pas chez Satan. Judas devient désormais l'instrument impuissant de ses desseins. Pour Judas, il n'y a maintenant plus de retour possible. Aussi le Seigneur peut-il dire « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Stupéfait, semble-t-il, par cette terrible révélation, les onze n'arrivent pas à saisir la signification des paroles du Seigneur. La bourse avait été confiée à Judas. Ils pensent donc à une instruction en rapport avec les exigences de la fête ou l'aide à apporter aux pauvres. Judas, lui, a très bien compris. La présence du Seigneur est devenue insupportable à cet homme possédé par le diable. Ayant reçu le morceau, il se lève aussitôt et, sans un mot, sort dans la nuit pour s'enfoncer, quelques heures après seulement, dans une nuit plus obscure, l'horreur des ténèbres profondes, d'où il n'y a pas de retour. On a remarqué que, tout au long de cette scène si solennelle, il n'y a aucune condamnation de Judas. Pas un reproche ne lui est adressé. Il n'est pas sommé de sortir. Il ne lui est pas enjoint de se retirer. La présence d'un faux disciple est révélée. Le péché qui va être commis est annoncé. L'homme qui le commettra est désigné. Puis, au milieu d'un silence plus terrible que des paroles, Judas quitte la lumière qui était trop pénétrante, la sainte présence qu'il ne pouvait plus supporter, et s'enfonce dans la nuit, à laquelle ne succédera jamais aucun matin. Souvenons-nous que, sans la grâce de Dieu et le sang précieux de Christ, nous suivrions tous Judas dans la nuit. Versets 31 à 38. Dieu glorifié en Christ. Citation de l'Écriture. Lors donc qu'il fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et incontinent, il le glorifiera. Enfants, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez. Et, comme j'ai dit aux Juifs, là où moi je vais, vous, vous ne pouvez venir, je vous le dis aussi maintenant à vous. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre. Comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je laisserai ma vie pour toi. » Jésus répond, « Tu laisseras ta vie pour moi. En vérité, je te dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. » Fin de citation. Le départ de Judas dissipe l'ombre qui pesait sur la petite compagnie. L'esprit troublé du Seigneur est soulagé et le malaise des disciples apaisé. Les mots « lors donc qu'il fut sorti » marquent ce changement. Judas avait quitté la lumière de la chambre haute et était sorti dans les ténèbres du monde extérieur. Le traître parti, la lumière brille d'autant plus vive à l'intérieur, tandis qu'à l'extérieur, les ténèbres s'épaississent par sa présence. La porte qui se referme sur Judas marque la rupture du dernier lien entre Christ et le monde. L'atmosphère est purifiée et, seul avec ses disciples, le Seigneur est libre de dévoiler les secrets de son cœur. Le Seigneur s'en va au Père. Les siens vont être laissés comme témoins pour Christ dans un monde qu'il a rejeté. Au cours de ces derniers entretiens, les disciples vont être mis en contact avec le ciel, chapitre 14. Il leur sera indiqué comment porter du fruit sur la terre, chapitre 15. Et ils seront fortifiés pour résister à la persécution de la part du monde, chapitre 16. Des privilèges et des honneurs aussi élevés réclament une œuvre préliminaire de la part de Christ et une préparation chez les siens. Aussi avons-nous ici des paroles d'introduction qui présente Dieu glorifié en Christ sur la terre, Christ glorifié comme homme dans le ciel, et les saints laissés sur la terre pour glorifier Christ. Ces grandes vérités ouvrent la voie à toutes les révélations subséquentes. Toute bénédiction pour l'homme, pour le ciel et la terre, durant les âges sans fin, repose sur les grandes vérités fondamentales qui sont placées devant nous dans le début de cet entretien. Le Seigneur se présente comme le Fils de l'homme, et, en relation avec ce titre, il proclame trois vérités d'une importance vitale. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. Dieu est glorifié en lui. Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Il vaut bien la peine de se pencher sur ces grandes vérités pour chercher à découvrir quelque chose de leur signification profonde, car leur réception par la foi forme, dans l'âme, la base solide de toute croissance et de toute bénédiction spirituelle. Premièrement, maintenant le Fils de l'homme est glorifié. Telle est la première grande vérité. Elle place devant nous la perfection infinie du Fils de l'homme, le Sauveur. nous y trouvons une allusion aux souffrances du Fils de l'homme à la croix. Il est déclaré que, dans ses souffrances, le Fils de l'homme est glorifié. Être glorifié, pour une personne, signifie que toutes les qualités qu'il exalte sont déployées. À la croix, toutes les perfections infinies du Fils de l'homme ont été manifestées au plus haut degré. Au chapitre 11 de Jean, nous lisons que la maladie de Lazare était pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. À Béthanie, la gloire du Fils de Dieu a été manifestée par la résurrection d'un homme d'entre les morts. Dans notre chapitre, la gloire du Fils de l'homme est vue en ce qu'il entre dans la mort. La puissance sur la mort montre la gloire du Fils de Dieu. La soumission jusqu'à la mort révèle la gloire du Fils de l'homme. En réponse au désir des gentils de le voir, Jésus avait dit « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié ». Mais là, le Seigneur anticipait les gloires du royaume. Ici, il parle des gloires plus insondables de la croix. Dans l'avenir, comme Fils de l'homme, il recevra la domination, la gloire et un royaume éternel. Et dans ce grand jour, toute la terre sera remplie de sa gloire. Daniel 7, versets 13 et 14, psaume 72, verset 19. Même ainsi, les gloires excellentes du royaume à venir n'excéderont pas, comme elles ne peuvent les égaler, ces gloires beaucoup plus grandes de Fils de l'homme sur la croix. La gloire de son trône terrestre est dépassée par la gloire de sa croix ignominieuse. Le royaume manifestera ses gloires officielles. La croix rend témoignage à ses gloires morales. Au jour de son règne, toutes les dominations le serviront et lui obéiront, et toutes choses lui seront assujetties en tant que Fils de l'homme. Au jour de ses souffrances, il a été, lui, l'homme obéissant et soumis. Certes, chaque étape de son chemin témoigne de ses gloires morales, car celles-ci ne pouvaient être cachées. Mais à la croix, ses gloires ont brillé de tout leur éclat. Celui qui avait appris l'obéissance à chaque pas du chemin a été finalement mis à l'épreuve par la mort et manifesté obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. La soumission parfaite à la volonté de son Père, qui avait caractérisé sa marche, trouve son déploiement le plus brillant à l'approche des ombres de la croix, lorsqu'il peut dire « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite ». Chaque pas attestait son amour parfait pour le Père, mais le témoignage suprême de son amour paraît lorsque, à la vue de la croix, il peut déclarer « Afin que le monde connaisse que j'aime le Père ». Et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Sa nature sainte, qui était sans souillure et ne pouvait être souillée par le monde pécheur qu'il traversait, est vue dans sa perfection lorsque, anticipant l'horreur d'être fait pécher, il peut dire « S'il est possible que cette coupe passe loin de moi ». En vérité, à la croix, ses gloires morales, son obéissance, sa soumission, son amour, sa sainteté, et toutes ces autres perfections, ont été pleinement manifestées. C'est là que les paroles du Seigneur ont eu leur accomplissement. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. Ainsi, la première grande affirmation place devant nous la perfection infinie du Fils de l'homme, de notre Sauveur, celui qui a glorifié Dieu en tant que grand sacrifice propitiatoire. Et si nous saisissons la portée de cette déclaration, qui nous parle de la perfection de Jésus, nous voyons combien il est digne de notre confiance pleine et entière. En présence d'une telle beauté morale, personne ne peut dire qu'il y avait en lui la moindre imperfection qui aurait rendu impossible de se confier en lui. Ces perfections pleinement manifestées le révèlent comme celui dont toute la personne est désirable. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Paré de toutes les magnificences qui le rendent digne de notre confiance. Deuxièmement, considérer le Fils de l'homme à la croix, le voir glorifié par la manifestation de toutes ses perfections infinies, nous prépare pour la deuxième grande affirmation, Dieu est glorifié en lui. Tous avaient déshonoré Dieu, mais voilà enfin un homme, le Fils de l'homme, lui-même parfait moralement, capable d'entreprendre une œuvre qui glorifie Dieu. Toutefois, pour glorifier Dieu, il devait être fait péché et pénétrer dans le domaine de la mort. Les cieux racontent la gloire de Dieu, comme créateur avec une sagesse et une puissance infinie. Mais ils ne peuvent raconter la gloire de son être moral. Pour cela, il fallait que le Fils de l'homme souffre, afin que par ses souffrances, chacun des attributs de Dieu reçoive son expression la plus élevée. Par la croix, la majesté de Dieu est revendiquée. La vérité de Dieu est maintenue. La justice de Dieu est constatée dans le jugement du péché. La sainteté qui exigeait un tel sacrifice et l'amour qui y a pourvu brillent de leur éclat le plus vif. Certes, par ses souffrances, le Fils de l'homme a glorifié Dieu. Troisièmement, cette grande œuvre conduit à la vérité exprimée par la troisième grande affirmation. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et immédiatement il le glorifiera. Si Dieu a été glorifié en Christ, Dieu donnera une preuve éternelle de la satisfaction qu'il a trouvée dans l'œuvre de Christ. Christ glorifié comme homme dans la gloire est la seule réponse adéquate à son œuvre sur la croix, et la preuve éternelle de la satisfaction de Dieu dans cette œuvre. La première affirmation, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié », nous fait découvrir la perfection du Fils de l'homme. La deuxième, « Dieu est glorifié en lui », nous montre la perfection de son œuvre. La troisième, « Dieu aussi le glorifiera en lui-même », révèle la pleine satisfaction de Dieu dans cette œuvre. Nous avons un Sauveur parfait qui a accompli une œuvre parfaite à la parfaite satisfaction de Dieu. Par d'autres passages, nous apprendrons que ce Sauveur parfait, cette œuvre parfaite et la parfaite satisfaction de Dieu sont disponibles pour tous. En effet, nous lisons qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et l'entière satisfaction de Dieu en Christ et en son œuvre permet à Dieu de dire « Par lui vous est annoncée la rémission des péchés » Acte 13, verset 38. La glorification du Fils de l'homme va impliquer sa séparation d'avec les disciples. Le Seigneur, dans sa sympathie parfaite, entre dans la peine qui remplit le cœur à la pensée d'être séparé de celui qu'ils avaient appris à aimer. À maintes reprises, avec des accents de tendresse humaine, il fera allusion à cette séparation inévitable et préparera leur cœur à la rupture prochaine des liens terrestres qui les unissaient à leur maître. Chapitre 14, versets 4, 28 et 29, chapitre 16, versets 4 à 7, 16 et 28. Jamais auparavant le Seigneur ne s'était adressé aux disciples en les nommant « enfants ». Dans la langue originale, le terme employé exprime une affection pleine de compassion. Ainsi, avec une tendre sollicitude, il introduit le sujet de la séparation imminente. Il serait encore pour un peu de temps avec eux. Le Seigneur retournait dans la gloire par un chemin que personne ne pouvait emprunter. Plus tard, les croyants pourraient suivre, même dans le martyr, ce chemin de la mort, mais jamais de la mort telle que le Seigneur aurait à la rencontrer, comme jugement du péché. C'était là un chemin à l'égard duquel le Seigneur pouvait déclarer « Là où moi je vais, vous, vous ne pouvez venir. » La séparation imminente devait en outre signifier que les disciples seraient privés du lien puissant que constituait entre eux la présence personnelle de celui que tous ils aimaient. Aussi, le Seigneur donne-t-il un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé. On a suggéré que le Seigneur qualifie ce commandement de nouveau, en contraste avec le commandement ancien, bien connu de ses disciples juifs, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le commandement nouveau dit « Que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé ». Christ a aimé d'un amour qui, tout en n'étant jamais indifférent au mal, a néanmoins triomphé de toute la puissance du mal. Si nous nous aimons l'un l'autre, selon le modèle du grand amour du Christ, nous ne tolérerons pas le mal l'un dans l'autre, mais nous trouverons un moyen d'agir à son égard sans cesser de nous aimer l'un l'autre. Seul le lien de l'amour, selon le modèle divin, gardera unis entre eux des croyants ayant chacun sa personnalité propre, avec les différentes nuances de caractère et les tempéraments divers. Une compagnie de personnes unies par l'amour paraîtrait si étrange dans une scène gouvernée par la convoitise et l'égoïsme que le monde même réaliserait que de tels gens devaient être les disciples de Christ. Le monde ne peut pas apprécier la foi et l'espérance du cercle chrétien. En revanche, il peut voir et admirer, à défaut de pouvoir les imiter, l'amour divin et ses effets. Ainsi, un groupe caractérisé par l'amour les uns envers les autres, selon le modèle de Christ, deviendrait un témoin pour Christ dans un monde d'où il est absent, de sorte que, si Christ est glorifié dans le ciel avec le Père, il serait glorifié dans les saints sur la terre. La scène finale, bien que concernant Pierre, contient un avertissement pour tous. Si les disciples sont laissés dans le monde pour glorifier Christ, ils ne doivent pas oublier que chacun d'eux a la chair en lui, toute prête à renier Christ. Simon Pierre, apparemment sans arrêter son attention sur le commandement nouveau et ne pensant qu'à la séparation imminente, demande, comme pour résister à ce qu'il ne comprend pas, « Seigneur, où vas-tu ? » Le Seigneur répond, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Le Seigneur allait connaître la mort, comme martyr, par la main d'hommes iniques. Mais, chose bien plus terrible pour son âme sainte, il allait entrer dans la mort comme la sainte victime sous la main de Dieu. C'était là, certes, un chemin où lui seul pouvait s'engager. Pierre ne pouvait le suivre dans cette voie. Plus tard, dans les années qui viendraient, Pierre aurait le grand honneur de suivre le Seigneur dans le chemin du martyr. Fort de son amour pour le Seigneur, Pierre, très sûr de lui, affirme « Je laisserai ma vie pour toi ». Il s'attire ainsi l'avertissement solennel du Seigneur « en vérité je te dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois ». Si la chair dans un faux disciple peut trahir le Seigneur, elle peut, chez un vrai disciple, renier le Seigneur. N'oublions cependant pas que l'amour du Seigneur a triomphé du reniement de Pierre, car, comme nous l'avons vu, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Aveuglé par la confiance que nous avons en nous-mêmes, nous pouvons aller jusqu'à renier le Seigneur. Mais nous sommes aimés du Seigneur d'un amour qui ne nous abandonnera pas.